Pourquoi forêt ?
J'ai une passion pour la musique de forêt. Je trouve que c'est un des plus importants compositeurs français.
Il y a quand même un gros malentendu sur cette musique de Fauré. C'est pas parce que Fauré a été joué dans les salons et qu'il a créé des petites formes qu'il était ce qu'on appelle un petit peu méchamment un musicien de salon.
Notre amour est chose légère, comme les parfums que le vent prend aux cimes de la fougère.
Peut-être qu'on essaye aussi de faire ça, de réinterpréter Fauré avec les gestes de notre époque, avec notre modernité à nous. Ils avaient déjà de la modernité en fait, mais on en a une autre.
Avec mon amour.
France Culture. La série musicale. Zoé Svez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre en 2024 de tous les styles, de tous les récits, de tous les hommages. Une heure de radio sur la musique, en musique. Tous les dimanches, c'est la série musicale. Bienvenue. Aujourd'hui, de notre série adorée, notre série L'éternel retour, où l'on écoute ensemble comment la musique d'un compositeur ou d'une compositrice continue d'être reprise, samplée, citée, d'inspirer les musiciens, les musiciennes d'aujourd'hui, comment en fait ils continuent d'habiter nos oreilles en 2024. On a déjà vu évidemment comment les mélodies efficaces de notre ami Chopin sont absolument partout, dans les grands succès des stars du R&B, dans les titres les plus célèbres de la variété française. On a vu évidemment comment les audaces orchestrales folles d'hommes comme Debussy, Ravel ou Wagner ont inspiré autant les rappeurs qui les samplent à l'envi que les bandes originales de films qui ne cessent de les citer. Or, en 2024, on va célébrer la mémoire de l'un des compositeurs les plus importants de l'histoire musicale française, car il est mort il y a 100 ans précisément. Et ce compositeur, c'est aussi l'un des plus singuliers, l'un des plus mystérieux, peut-être l'un des plus incompris. Et cet épisode sera sans doute à son image. Ce compositeur, c'est Gabriel Fauré. Évidemment, ce jeune Gabriel venait, lui, d'un milieu assez modeste. C'est un exemple typique de la méritocratie à la française. Pas de folie orchestrale chez lui, alors que tous les compositeurs de son temps sont soumis à l'influence de Wagner. Pas de mélodie transposable à l'infini, car Fauré, c'est le grand maître des mélodies et des mélodies courtes, des formes légères, musique de chambre, chansons pour piano et voix. Des formes en fait qui ont un peu vieilli, qu'on a tendance à oublier et qui sont pourtant des beautés absolues, sans doute peut-être trop taillées pour l'époque dans laquelle elles ont été composées. Gabriel Fauré a été un immense pédagogue, c'est peut-être aussi cela qui fait qu'il est plus difficile de le reprendre, mais ceux qui le connaissent ou qui le redécouvrent, l'adorent et ne peuvent s'empêcher de lui rendre hommage, de le citer et de le redécouvrir, de lui rendre sa modernité absolue. Gabriel Fauré, l'éternel retour, c'est tout de suite dans la série musicale.
Thank you.
Évidemment, même si vous ne connaissiez pas le nom de Gabriel Fauré, vous connaissiez sa pavane qui est considérée comme l'un des grands tubes de la musique classique du 19e siècle. Et c'est une musique qui a été évidemment énormément reprise, cette pavane composée ici en l'honneur de la comtesse de Gréfulhe, grande figure de la société mondaine du Paris de la fin du 19e siècle, modèle de Marcel Proust. Cette pavane, c'est sans doute l'arbre qui cache la forêt de Fauré. C'est une œuvre orchestrale. L'orchestration est relativement simple par rapport aux audaces qui ne cessent de fleurir en cette fin du 19e siècle. Et pourtant, c'est bien cette pavane qui est l'œuvre la plus célèbre de Gabriel Fauré. Tout ce que j'ai pu composer de nouveau, c'est une pavane. Elle est très soignée, je vous le jure. Mais elle n'est pas autrement si importante que cela, écrivait Fauré à son professeur et son mentor Camille Saint-Saëns lorsqu'il compose cette œuvre. Alors cette œuvre, elle est absolument partout. Si vous la connaissez, c'est peut-être parce que vous l'avez entendue sampler dans toute une foule de chansons de rap. Par exemple, c'est elle qui est la base dans des tubes de Diams avec Alibi Montana dans les années 2000, Tous les mots d'amour. Elle a été reprise aussi par le groupe S Club 7, on est toujours dans les années 2000, on est de l'autre côté de la Manche. Beaucoup d'évocations aussi de cette pavane dans des samples où on peine carrément à reconnaître le motif. Évidemment, Gabriel Fauré fait partie des gens que l'on peut exploiter car ils sont libres de droit. Mais il continue à inspirer très directement. Là, vous entendez un titre qui s'appelle Fauré et qui est une production de Tilassine, belle figure de la scène émergente en France, en collaboration avec un artiste électro qui est aussi producteur pour toute la scène rap et variété française, un jeune homme, élève du conservatoire, qui est par exemple le producteur d'un garçon comme Tim Dup, et qui a choisi pour nom de scène, tout simplement, Pavane. Ce Pavane produit plusieurs EP qui sont quasiment tous des réflexions électro autour de la musique de Gabriel Fauré, de Claude Debussy, pour vous dire à quel point l'héritage de Gabriel Fauré est encore présent en ce début bien entamé du 21e siècle. Gabriel Fauré, en fait, rien ne le destinait vraiment à la gloire. C'est ce jeune garçon qui naît en Ariège et qui est le fils d'un instituteur qui détecte très vite chez lui un vrai talent. Et c'est en fait un exemple de méritocratie très républicain puisqu'il est envoyé tout jeune dans une école de composition de musique religieuse, hein, parce qu'il s'agit évidemment de gagner de l'argent. C'est le compositeur Louis Niedermayer qui a fondé une école où pendant 11 ans Gabriel Fauré va apprendre les bases de la musique religieuse et apprendre son métier. En l'occurrence, il va devenir organiste et maître de chapelle pendant très longtemps. C'est comme ça qu'il va gagner sa vie, notamment dans l'église de la Madeleine, où il sera maître de chapelle, où il jouera de l'orgue. Ses compositions, en réalité, vont connaître un succès graduel et c'est surtout par les salons, la mondanité, que ces formes courtes, légères vont s'imposer. Aujourd'hui, pourtant, il reste l'un des musiciens les plus admirés, notamment évidemment des jazzmen qui, on verra pourquoi, admirent comme bien d'autres ces immenses qualités harmoniques. Cette pavane, par exemple, elle est reprise par le génial Bill Evans en 1958. Écoutez. Thank you. Qu'est-ce qui fait de Gabriel Fauré un compositeur à part dans l'absolu et un compositeur à part dans la manière dont il surgit encore au XXIe siècle ? Bien d'abord, Gabriel Fauré n'est pas un maître de l'orchestration, on l'a entendu, ça l'intéresse relativement peu. D'ailleurs, la plupart de ses œuvres orchestrales vont être orchestrées ensuite par ses élèves quand il deviendra directeur du Conservatoire de Paris. Mais surtout, il aime surtout l'idée musicale, c'est ça qu'il cherche. Des mélodies absolument parfaites, des mélodies qui ne ressemblent à aucune autre et qui sans doute ont beaucoup fait pour que la musique de Ravel et Debussy soit acceptable quelques années plus tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est formé dans cette fameuse académie qui forme surtout à la musique religieuse. Il a donc un tout autre accès à tout autre système d'apprentissage modal et harmonique. Il maîtrise parfaitement le chant grégorien. Et comme Saint-Saëns le fait remarquer, Niedermeyer, l'homme qui forme d'une certaine manière Gabriel Fauré, avec cet long apprentissage qui va durer 11 ans de l'orgue, en enseignant l'art d'harmoniser selon leur vrai caractère les modes du plein chant, donnait aux musiciens qu'il formait des procédés harmoniques nouveaux. Il n'y avait pas songé qu'ils puissent être utilisés hors de l'accompagnement des chants liturgiques. Or, en fait, c'est ce que va faire Gabriel Fauré, utiliser tout ce qu'il a appris en harmonie et de la musique religieuse dans le chant profane. Et puis, il est un peu à contre-courant de son temps. Alors évidemment, il découvre Wagner, mais il n'aime pas beaucoup. Surtout à la fin du XIXe siècle, c'est le théâtre lyrique qui est prisé par le public, et pas la musique instrumentale, qui est jugée trop classique. Or, pour Gabriel Fauré, la musique de chambre est une forme magnifique. Il va fonder la Société Nationale de Musique pour écrire ces formes courtes, très épurées, où c'est l'équilibre des mélodies, l'équilibre des harmonies, l'équilibre entre chant et accompagnement qui l'obsède. C'est pour ça qu'il est très difficile aujourd'hui de le reprendre béatement. C'est aussi peut-être pour ça que sa musique a un peu mal vieilli à un moment donné. Yankelevitch parlait très bien du génie de Fauré, Fauré qui a beaucoup, beaucoup inspiré pourtant au XXe siècle.
Fauré qui vont s'adresser d'abord dans sa jeunesse à l'agrément sensible, à des choses qui étaient réputées faciles, mélodieuses et qui étaient même presque populaires, qu'aujourd'hui on méprise un peu, mais que lui-même avait dépassé, et à la fin écrivait de la musique assez hermétique. Pas non pas dit, pas proprement parler dissonante, encore qu'il y a souvent des frottements très durs dans sa musique, mais enfin, une musique qui n'est pas facile et qui exige une méditation, qu'on s'y accoutume. C'est donc lui-même nous donne cet exemple, n'est-ce pas ? Il ne se croit pas tenu de fabriquer du plaisir, de la limonade, toute sa vie, n'est-ce pas ? Il a répugné à le faire, il a préféré se renouveler.
Haruka Nakamura et Uyama Hiroto, deux artistes japonais qui rendent hommage à Gabriel Fauré dans ce titre qui s'appelle Fauré. On est encore dans de la musique électronique. C'est évidemment parce qu'il a ces audaces mélodiques et ce génie harmonique, on parle de miracle fauréen, que les artistes japonais, notamment de l'électro, sont très friands de la musique de Fauré. Mais ce titre est très intéressant car on retrouve ici samplé deux morceaux. D'abord, évidemment, la Sicilienne de Gabriel Fauré, que vous allez entendre, mais aussi la partition écrite par le compositeur de musique de film très salué, John Williams, pour le film de Steven Spielberg, La Liste de Schindler. Pourquoi est-ce qu'on retrouve du John Williams dans ce sample ? Eh bien, parce que John Williams s'est beaucoup inspiré de Fauré pour écrire sa propre musique. On l'a d'ailleurs souvent accusé d'avoir carrément plagié Fauré et cette fameuse Sicilienne, dans l'un des morceaux les plus célèbres de sa très longue production pour le cinéma. C'est évidemment le thème principal d'une série de films qui compte beaucoup, vous le reconnaîtrez maintenant. Thank you. La Sicilienne en sol mineur opus 78 18 de Gabriel Fauré dans une version magnifique pour violoncelle et piano, ici avec Anne Kefelek et Dominique de Villancourt. Des très beaux pizzicati qui a été beaucoup interprété sous diverses formes, formes orchestrales réduites par plusieurs flûtistes aussi, notamment celle de Patrick Gallois. Cette Sicilienne, absolument sereine et épurée, et évidemment l'un des modèles de John Williams quand il compose le thème d'Edwige qui devient le thème principal de la série des films Harry Potter. Et dans cette forme-là, qu'on aime beaucoup, violoncelle et piano, elle annonce finalement ce registre de prédilection qui est celui de Gabriel Fauré, qui est des formes de musique de chambre, des sonates. Proust en parle dans À la recherche du temps perdu. Proust qui se dit amoureux de la musique de Fauré. Et cette musique qui est vraiment taillée pour les salons, qui fera sans doute de Gabriel Fauré aussi vraiment une star de son époque, qui donnera aussi un caractère un peu vieilli à sa musique. Cette musique qui est vraiment très caractéristique de l'avant-guerre du 14-18, qui se chante, qui se joue beaucoup dans ce monde des salons qui va disparaître avec le XXe siècle. Et surtout dans les formes de prédilection de Gabriel Fauré, que sont les chansons. Gabriel Fauré va composer énormément de chansons taillées sur pièce pour les poèmes des poètes qu'il adore, les poètes de son temps. Il est un immense fan de Paul Verlaine, de Victor Hugo, de Stéphane Mallarmé. Il va, comme personne sans doute, tenter de mettre en musique cette intensité de la poésie. On parle vraiment de poètes fauréens. Cette forme-là, soprano, souvent, des sopranos qui chantent avec un piano, sont réputés pour l'incroyable équilibre qu'arrive à trouver Gabriel Fauré entre le piano justement et la voix, interprétée souvent par des sopranos. On vous recommande diverses versions par Sabine Devielle ou Nathalie Dessay. Ces formes-là, elles sont un peu plus difficiles à écouter aujourd'hui et beaucoup plus difficiles à reprendre. Et pourtant, elles reviennent car elles sont redécouvertes par toute une série de chanteurs d'aujourd'hui. C'est le cas par exemple de la chanteuse Marion Rampal qui, avec Pierre-François Blanchard, a repris ces grandes mélodies foréennes comme si elles étaient des chansons composées, enregistrées, produites aujourd'hui, en 2024. Elle expliquait d'ailleurs dans l'émission Les Carnets de la Création en 2019 qu'elle cherchait à redonner à la musique de Fauré la modernité qu'elle mérite.
Je veux que le matin l'ignore, le nom que j'ai dit à la nuit, et qu'au vent de l'aube sans bruit, comme une larme, il s'évapore. Je veux que le jour le proclame, l'amour qu'au matin j'ai caché et sur mon cœur ouvert penché comme un grain d'encens, il l'enflamme. Je veux que le couchant l'oublie, le secret que j'ai dit au jour, et l'emporte avec mon amour au pli de sa robe.
J'aime bien penser que dans la musique de chambre, on n'est pas obligé de jouer ou de chanter fort. Que peut-être que cette musique de chambre, telle que l'a jouée par exemple mon arrière-grand-père qui était pianiste, qui était élève de Fauré, ou mon arrière-grand-mère qui chantait, ils chantaient ça avec le style de voix, de piano de leur époque. Et peut-être qu'on essaye aussi de faire ça, de réinterpréter Fauré avec les gestes de notre époque, avec notre modernité à nous. Ils avaient déjà de la modernité en fait, mais on en a une autre.
Avec mon amour.
Et ça permet de rentrer aussi dans l'imaginaire de cette chanson. Pour moi, c'est une rêverie érotique d'une jeune femme qui ne veut pas révéler le nom de l'amant auquel elle a rêvé, ou des amants ou des amantes, on ne sait pas combien il y en a, auquel elle a rêvé. Donc c'est toute une suspension comme ça de « je vais pas le dire, mais j'ai fait un très beau rêve ».
Thank you.
Après, Un secret, interprété par Marion Rampal et Pierre-François Blanchard, Le secret. Vous avez entendu Philippe Catherine et J.P. Nataf chanter Notre amour, ces deux bohèmes d'Armand Sylvestre, mis en musique par Gabriel Fauré. Alors, Marion Rampal s'est lancée en 2019 dans une entreprise qui fait écho à celle d'Olivier Mélano et de l'ensemble Boom, qui, dans un sublime album, décide en fait de rendre à Fauré justice et toute la modernité qui est la sienne en un album qui s'appelle Ici-bas, les mélodies de Gabriel Fauré, qui l'année précédente ont réuni certaines des plus grandes voix de la musique française, d'Étienne Dao à Rosemary Stanley, de Philippe Catherine à Sandra Nkaquet, qui tous se sont réappropriés cette musique de Gabriel Fauré, qui est en fait une musique de l'intime, une musique de l'idée musicale, une musique qui s'attache avec la plus grande délicatesse à parler de l'amour. Car Gabriel Fauré a eu cette vie très particulière, était un grand amoureux. Il a commencé, on l'a dit, organiste, avec peu de temps pour composer, puisqu'il travaille et enseigne la journée, il ne peut composer que le week-end. Finalement repéré par Saint-Saëns, qui lui dit qu'il manque d'ambition et qu'il introduit dans les salons. Il est initié à la musique de salon, où il rencontre Pauline Viardot, une des grandes tenancières de salon, grande cantatrice, compositrice elle-même. Il tombe fou amoureux de sa fille, qui le rejette. Plus tard, il se mariera et il connaîtra aussi une grande histoire d'amour enflammée avec Emma Bardac, qui deviendra ensuite la femme de Claude de Debussy. C'est une autre histoire. Le fait est que la délicatesse fauréenne ne cesse d'éblouir, justement parce qu'elle a cette capacité à introduire une forme d'équilibre entre la voix, l'accompagnement musical, parce que les partitions pour piano sont hyper audacieuses. En réalité, Fauré est un organiste, donc il écrit pour le piano comme un organiste avec des mélodies entremêlées, ce qui est très très original pour les pianistes. Ce miracle harmonique de Fauré, il éblouit tous ceux qui prennent le temps de se pencher dessus. Vous entendez ici l'adaptation en jazz par le quatuor Treia d'une des mélodies les plus célèbres, les plus parfaites harmoniquement de Gabriel Fauré, Après un rêve. C'est justement en découvrant cette chanson-là qu'Olivier Mélano, qui est surtout un homme venu du rock et de l'électro, découvre la musique de Fauré, lui qui méprisait un peu la musique dite romantique, et bouleversé. C'est comme cela qu'il se lance dans ce très grand projet.
Il y a un moment, une sorte d'évidence absolue, d'embrasement, de mystère de la musique qui est apparu. À chaque fois que ce morceau était joué sur scène, j'étais vraiment paralysé, en sidération. Voilà, une sorte de chose qui se passait, d'arrêt du temps complet, que j'ai ensuite retrouvé dans d'autres mélodies de Fauré. Et puis voilà, ça a été le début de la recherche et de creuser cette mine d'or. Il y a vraiment dans cette musique ce miracle harmonique. Effectivement, c'est très longue phrase, ces changements de tonalité permanents qui sont complètement fous, très évidents et en même temps très complexes. Voilà, et c'est le pari un peu de ce disque, ça a été de faire entendre ça, faire entendre ce qui était à la fois simple et très sophistiqué. Donc c'est un format chanson. Quand on lit les partitions, la voix, on la lit comme quelque chose qui nous est chanté à l'oreille, susurré, avec une grande douceur. Pour moi, il n'y a aucune raison que...
qu'elle soit surplombante.
Voilà, ou qu'il y ait cette force, ce qui était le cas à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de micro, etc. Donc, c'est juste pour faire entendre la voix, il fallait donner de la voix dans les salles de concert. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucune nécessité à aller vers ça. Et effectivement, j'ai l'impression que ça cache le texte, que ça cache la richesse harmonique et que l'apaisement, l'humilité, on va dire, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité aussi dans la façon d'enlever tout ce pathos ou toute cette virtuosité. Et de donner juste les mots, les notes, et avec la résonance juste par rapport à la musique.
S'asseoir tous deux au bord du flot qui passe, le voir passer, tous deux s'il glisse un nuage en l'espace, le voir glisser. À l'horizon s'il fume un toit de chaume, le voir fumer aux alentours si quelques fleurs embaument, s'en embaumer, entendre au pied du sol où l'eau murmure.
La fragilité inouïe de la voix de la chanteuse Ikimo Paganotti dans cette version tout en délicatesse, tout en vulnérabilité de cette courte chanson au bord de l'eau, interprétée en général avec la pleine voix des sopranos lyriques qui nous fait goûter vraiment ce projet de Lily Melano et de Boom Ishiba, Mélodie de Forêt, qui montre bien la modernité extraordinaire de la musique de cet homme qui a donc été, on l'a vu, un peu enfermé dans l'idée d'un musicien de salon, d'un musicien de forme simple et populaire, alors qu'elle recèle d'une complexité inouïe. Enfermé aussi dans l'image de son dernier rôle dans sa vie, et quel rôle en 1892, Gabriel Fauré va devenir inspecteur des conservatoires de musique en Provence, mais beaucoup plus tard, il accède à une forme de consécration, puisqu'en 1905, il va devenir le directeur du conservatoire de Paris. Cela va faire beaucoup jaser, d'une part parce que lui-même n'a jamais été élève du conservatoire, qui reste un cénacle où l'on garde les portes, et parce qu'il va procéder à de nombreux changements, qui va rétablir beaucoup de discipline, apporter beaucoup de sérieux, lui qui a connu cette très longue formation de musicien religieux, un enseignement qui avait beaucoup vieilli. Pourtant, c'est aussi ça qui va faire de Fauré l'un des hommes qui est les plus écoutés par les musiciens qui se forment. Son enseignement et son héritage de pédagogue est très important. C'est assez fou de penser que Fauré, en réalité, formé à la musique religieuse, est aujourd'hui plus connu pour ses musiques profanes, et que c'est cette formation-là qui, en imbibant sa création, lui a donné tout son génie. Parmi les grands admirateurs de Gabriel Fauré, il y a aussi l'un des hommes qui a opéré cette transition entre musique savante et musique populaire. C'est Michel Legrand qui était sans doute son héritier à double titre, puisque Michel Legrand est peut-être un héritier de Fauré dans le sens où son propre père a été l'élève de Fauré, aussi parce que Michel Legrand a été formé par Nadia Boulanger, qui elle-même fut une élève de Fauré aussi. Michel Legrand qui a toujours eu à cœur, jamais de le plagier, mais souvent de le diriger et de s'en inspirer, comme il le racontait dans La musique des musiciens sur France Inter en 1982. Vous allez l'entendre aussi diriger l'une des plus belles pièces religieuses de Gabriel Fauré, car il en a écrit, c'est son Requiem.
J'ai une passion pour la musique de Fauré. Je trouve que c'est un des plus importants compositeurs français. Je connais bien son œuvre, on l'a beaucoup travaillé au conservatoire, et je suis passionné de Fauré depuis toujours. On l'entend rarement, on le joue peu. Mais c'est un des grands, 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 et avec lesquels je vis beaucoup.
Liberame Domine de morte eterna in die illa tremenda. In die illa tremenda.
Forêt que vous avez entendu, dirigé par Michel Legrand, avec le baryton Thomas Thompson, les Ambrosium Singers et le Philharmonia Orchestra, repris ici, adapté par le génial pianiste Thomas Henko, formé au piano au Conservatoire de Paris et donc très familier de l'œuvre de Forêt, qui avait déjà repris avec Adrien de la Marca après un rêve, lui aussi. Thomas Henko avec Stéphane Kerecki, le contrebassiste, dans une introduction assez splendide, montre bien à quel point ce Libérame que vous avez entendu dans sa forme orchestrale splendide, très religieuse, est harmoniquement sublime tout seul lorsqu'il reste ainsi à l'os, à l'image de cette musique, de cette éthique foréenne de l'intimité, de l'idée musicale, qui deviendra presque ascétique à la fin de sa vie quand Gabriel Fauré fera face à la surdité, ce qui n'empêchera pas de composer quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Gabriel Fauré qui disait que la musique devait nous aider à nous élever au-delà de là où nous sommes. Cette émission a été réalisée par Colin Gruel, notre réalisateur en chef à la technique, c'était Élise Le. Merci beaucoup à la discothèque musicale de Radio France, ainsi qu'à Lou Quevauvier, l'attaché de production de la série musicale. Prêtez attention aux programmations dédiées à Forêt en cette année 2024. Elles seront nombreuses près de chez vous, sans doute. Et un grand concert Gabriel Forêt aura lieu en juin, ici, à la Maison de la Radio. Les hommages se multiplieront pour notre plus grand plaisir.